Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Comment faire face à la crise humanitaire liée au conflit entre Téké et Aka? Nous en parlons dans ce nouveau numéro du magazine au Capi Service avec nos deux invités. Nous avons déjà en ligne le professeur Jean-Claude Bouanganga, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice, Décentralisation, Droits humains et Affaires coutumières dans la province d'Ikoulou. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également un deuxième invité honorable, Jean Bosco Mambo Katunda, député national élu de Bagata, toujours dans la province du Kouilou. Et dans la deuxième partie, après les flashs de 11h de Kinshasa, on va parler de ce qui a motivé l'interdiction des ventes des objets classiques aux écoles primaires et secondaires de la RDC. Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education, Imaya en sigle, sera notre invité. Mais aussi Jean Moupépé, président provincial de l'Association nationale des écoles privées, agréé à ce dépôt en sigle. Voilà le menu pour le magazine au Capi Service de ce jour. Alain Goy est à la technique et Tatima Poko coordonne et réalise ce numéro présenté par Marcel Gomombala sous la supervision du Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Ocapi Service.
En RDC, les affrontements intercommunautaires qui ont éclaté depuis juin 2022 dans les territoires des Kwamout, dans la province du Maïndombé, à l'ouest du pays, ont provoqué les déplacements des populations selon les autorités provinciales. Plus de 35 000 personnes se sont déplacées depuis les provinces de Maïndombé et Kwilu vers plusieurs localités des mêmes provinces, ainsi que vers les provinces voisines de Kwango et de la ville province de Kinshasa. On estime aussi à plus d'un millier de personnes qui ont également traversé le fleuve Congo pour trouver refuge en République du Congo. Se déplacer, vivre dans des conditions sont précaires dans les différents sites d'hébergement, selon nos sources. Alors, comment faire face à cette crise humanitaire liée au conflit entre Téké et Aka? Je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé ou voulez intervenir, vous pouvez composer les 081-890-63-94 en collision 99-756-63-94. Professeur Jean-Claude Bouanganga, vous êtes ministre provincial de l'Intérieur dans la province d'Ikoulou. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce conflit entre Téké et Aka?
Merci beaucoup pour cette invitation. Et s'agissant du conflit intercommunautaire dans le Kwamout, je dois signaler ici que c'est un conflit qui a commencé autour du mois de juin 2022. Et un conflit entre des communautés, bon, on dit Téké et Aka, mais il faut porter un petit correctif. C'est pas forcément Yaka, c'est Téké, considéré comme peuple autochtone, et les autres peuples qui sont venus habiter le territoire de Kwamout. Donc, à partir du mois de juin, il y a eu des atrocités, il y a eu des incendies de maisons, des destructions, pillages, etc. Il y a eu même des atteintes à l'intégrité physique, des atteintes à la vie. Il y a des déplacements de la population, vous en avez parlé. Plusieurs violences des droits humains, il y a même de violences sexuelles qui ont été signalées. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, des mesures ont été prises. Vous avez suivi tour à tour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Affaires coutumières, qui a fait le déplacement sur Kwamout pour s'enquérir de la situation. Il a fait un deuxième déplacement à Kenge. Il a rencontré les trois gouverneurs donc des trois provinces démembrées du Grand Bandundu. Et il n'y a pas longtemps, tous les ministres provinciaux de l'Intérieur, dont moi-même, donc de trois provinces, Kwilu, Kwango, Maïndombe, les gouverneurs, les membres des services de sécurité, avec les services de sécurité sur place à Kinshasa, ont été invités par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, dans le cadre d'une commission mixte chargée du rétablissement de la paix et de la cohésion sociale entre ces différentes communautés. Donc, pour l'instant, la situation est quasiment sous contrôle. Je vais signaler qu'après, il y a le déplacement de ces sillons criminels qui arrivent au niveau de notre province du Kwilu, obviamente dans le territoire de Bagata, dans le secteur de la Wamba. Il y a déjà une équipe militaire qui a été envoyée, militaire et de la police, qui a été envoyée dans la zone, donc la zone est sous contrôle. Maintenant, la stratégie est mise en place pour pacifier totalement cette zone et demander aux populations de revenir. Donc voilà en quelques mots un peu la situation telle qu'elle se présente maintenant. Et je signale en passant que le trafic entre Bandunduville et Mongata, qui avait été interrompu, a rouvert. Donc maintenant, les véhicules peuvent passer parce que la nationale numéro 17 est sécurisée par nos forces de sécurité.
Alors ça fait plaisir, enfin ça c'est une très bonne nouvelle de l'apprendre que maintenant la situation est presque, vous avez dit, quasi sous contrôle, parce qu'à un moment on a déploré le fait qu'on ait comme l'impression les gouvernements centrales méditant pour réagir. Alors là maintenant, avant de c'est vrai qu'on va aborder tout ce qui a été lié à ces conflits, notamment le déplacement des populations. Généralement ces conflits engendrent toujours ces genres de déplacements des populations et qui vivent souvent dans des conditions précaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les dispositions prises de manière à ce que, en tout cas, on évite ces genres de conflits à l'avenir?
Bon, en tout cas, au niveau du ministère de l'Intérieur, sous l'œil vigilant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il y a des commissions qui avaient été mises en place. Il y a eu trois commissions qui avaient été mises en place. Il y a eu la commission politico-sécuritaire, il y a la commission humanitaire et la commission communication. Donc il y a toute une série d'actions, je ne saurais pas détailler ici, qui sont envisagées pour que la paix durable règne dans le territoire de Kwamutu. Je vais signaler ici, parce qu'il y a des choses que parfois l'on oublie. La situation sécuritaire qu'il y a à Kwamutu, c'est le résultat de plusieurs années de l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs zones de la République démocratique du Congo. Je crois que vous êtes sans ignorer qu'il y a des termes auxquels nous commençons à nous habituer, comme Kuluna, etc. Ceci avait presque été entretenu par la destruction du leadership. Dans nos villages, le leadership coutumier avait complètement été détruit. Il y a eu l'implication de la politique, en fait, dans nos sociétés. Le seul leadership qui devenait valorisant, c'était le leadership politique. Et les politiciens se sont mêlés dans les affaires coutumières, chaque politicien voulant avoir un chef coutumier et qui lui soit proche, etc. Et si vous mettez tout ça sur le lit de la pauvreté qui avait déjà été bien dressé et des injustices sociales, etc., une petite flamme a vite pris tout le village, tout le territoire et voire tout le pays. Donc c'est une situation que nous déplorons, qui est presque sous contrôle, mais nous devons maintenant devenir plus vigilants, prévenir d'autres conflits de ce genre qui ont déjà quelques foyers établis, vous avez vu dans les jours qui viennent de se passer ici, même il y a quelques deux jours, ce conflit s'est déplacé vers le territoire de Bagata. Ce n'est pas au fait le même foyer d'insécurité qui avait été créé à Kwamutu qui s'est déplacé, mais c'est une récupération de la situation par une tranche de la population qui est au chômage, qui se sent lésé, etc., et qui crée comme ça un climat d'insécurité dans nos territoires. Donc c'est une situation qu'il faut prendre de manière globale. si l'on veut vraiment résoudre à la longue ces genres de problèmes.
Voilà, malheureusement, lorsque ce genre de conflits arrive, comme nous l'avons dit, il y a toujours ces déplacements des populations, il y a des personnes qui fuient de massacres, qui fuient de menaces. Et là, on parle déjà par rapport à ces conflits qui ont éclaté, intercommunautaires, qui ont éclaté depuis juin 2022. On parle, en tout cas, selon nos sources, à plus de 35 000 personnes qui sont déplacées dans les provinces de Maïndombe et également des Kwilu et vers de localités, en tout cas de ces provinces, ainsi que vers des provinces voisines de Kwango, et même certains qui sont arrivés ici dans la ville province de Kinshasa. Mais ce qui a déploré, c'est des conditions précaires dans lesquelles vivent ces personnes, les différents sites d'hébergement. Et vous avez parlé à une commission humanitaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui peut être mené comme effort, en tout cas pour ce qui est de la situation humanitaire?
Bon, jusque quelques jours, on a enregistré plus de 80 000 déplacés. Comme vous savez, surtout ici, chez nous, au niveau de la province de Kwilu, qui a quand même une très longue frontière avec le territoire de Kwamout, nous avons eu beaucoup de déplacés qui ont transité soit par Bandundu-Ville, soit par le territoire de Bagata. Et dans la foulée des arrivées des gens, il s'est avéré qu'il y avait de personnes d'origine du Kwilu. Et donc, la ville de Bandundu, le territoire de Bagata, n'ont pas seulement servi de territoire pour garder les déplacés, mais ont aussi servi de transit. Donc, il y a des gens qui ont transité par Bandundu-Ville et qui sont allés chacun dans son territoire d'origine. Donc, ceux qui sont sur place ici, c'est vrai que c'est une situation qui est difficile à contenir au niveau de notre province, vu les moyens, les faibles moyens que nous avons, mais des gros efforts ont été faits par le gouvernement provincial du Kwilu, ce qui a d'ailleurs été clairement reconnu par son éminence, le cardinal Lambogo, qui venait de faire un passage ici à Bandundu-Ville. Mais ces efforts ne suffisent pas. Nous attendons un appui du gouvernement central et, comme je vous l'ai dit, la commission avait été mise en place et nous espérons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a pris l'affaire à bras le corps et va faire porter la voix de se déplacer au niveau du gouvernement central.
Voilà, merci de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de comment faire face à la crise humanitaire liée au conflit entre Teke et d'autres communautés, en tout cas sur place dans les territoires des Kwamou, dans la province de Maïndombe. Si vous voulez intervenir, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, composez les 081 890 63 94 ou les 099 716 63 94.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Alors, Monsieur le Ministre, Professeur Jean-Claude Bonganga, vous avez parlé de 80 000 déplacés à ces jours. Est-ce que dans les sites d'hébergement ou enfin dans des endroits où toutes ces personnes déplacées se sont réfugiées, est-ce qu'on peut avoir, vous avez déjà une idée de l'état des lieux, en tout cas des conditions dans lesquelles ces personnes vivent et ce qu'il faut absolument faire?
C'est ce que nous faisons au quotidien. Donc je vous ai dit que même au passage de son éminence cardinal Ambongo, une messe avait été dite paroisse Saint-Hippolyte de Bandundu, et la générosité, l'hospitalité de la population de Bandundu-Ville en particulier et de du diocèse des Pyrénées en général, a fait que il y a des dons qui ont été donnés pour essayer de venir en aide, se déplacer. Mais c'est comme je vous ai dit, ça peut donner l'impression de prendre du temps, mais je sais qu'au niveau du gouvernement central, il y a des signaux clairs d'une intervention très proche du gouvernement de la République.
Voilà, on a le plaisir d'accueillir dans ces studios notre deuxième invité, honorable Jean Bosco Mambo Katunda, député national élu de Bagata dans la province du Kolo. Bonjour, honorable.
Bonjour, cher.
Voilà. Merci de nous avoir rejoints. On avait déjà en ligne le ministre provincial de l'Intérieur de la province du Kolo, professeur Jean-Claude Banganga, avec qui on a fait le point sur la situation actuelle concernant ces conflits. Et la bonne nouvelle est que, la situation est presque sous contrôle. Alors, vous êtes député élu, député national élu de Bagata. Et quelle analyse faites-vous de ces conflits? Et avant de parler de la situation humanitaire à laquelle il faut absolument faire face, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de environ 80 000 déplacés internes.
Merci beaucoup. J'ai cru entendre que vous aviez dit que la situation était sous contrôle.
Selon le ministre provincial de l'Intérieur de la province du Kolo.
Merci beaucoup. Alors, moi je dis que la situation n'est pas sous contrôle. Nous allons parler de l'implication ou du déplacement du conflit Kwamutu vers Bagata. Bagata dans le Kolo et précisément dans le secteur de Awamba. La situation n'est pas sous contrôle. Nous commençons au samedi, le 24 septembre 2022, le chef du village Bukusu a été décapité et son village a été brûlé. Rien n'a été fait jusque-là. Et nous continuons, nous voyons le 29 septembre, les déplacés de Missia, de Bukusu, de Kimpana, énormément de gens, énormément de parents et leurs enfants qui se déplacent à la suite de cet acte-là et à la suite d'ailleurs aussi des actes et des atrocités qui avaient été commises en face. Parce qu'au fait, les gens peuvent se demander pourquoi les gens de Bagata parlent. Le territoire de Kwamutu est séparé du territoire de Bagata juste par la rivière Kwango. Donc on prend la pirogue, on traverse directement, on est dans le territoire de Bagata. Et plus précisément d'abord dans les secteurs de Fatundu, mais après il y a les secteurs de Kwango Kasai. Mais cette fois-ci, le peuple Teke, qui semble être attaqué dans les territoires de Kwamutu, ne se retrouve principalement dans le Bagata que dans les secteurs de la Wamba. Donc vous comprendrez que ces gens-là viennent dans des villages de leurs frères pour beaucoup plus de sécurité. Donc je disais que le 24, le premier village avait été brûlé. Le dimanche 9 octobre, les villages Kimpana, Mwanango, toujours dans le secteur de la Wamba, a été brûlé. Et nous arrivons le mardi 11 octobre, les villages Kisia, Kambulu. Aujourd'hui, nous sommes les 13.
Oui, 13 octobre.
Mardi 11 octobre, le village Kisia Kambulu est brûlé à son tour. Et je dois signaler ici que le 10 octobre soir, un chef d'un village Teke m'appelle, me dit: honorable, il y a environ 140 personnes, environ 150 personnes qui viennent de quitter le village Moué et qui progressent vers Kisia Kambulu. Et selon mes informations, et l'objectif de ce groupe-là, c'est d'attaquer Kisia Kambulu, de tuer et de brûler. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire sinon appeler? Je n'ai pas les pouvoirs, je n'ai pas les services de sécurité, je n'ai pas les moyens pour empêcher ces gens-là d'arriver là-bas. J'ai appelé tous ceux que je pouvais appeler au niveau provincial pour prévenir que quelque chose se préparait contre les villages Kisia Kambulu et que les assaillants étaient en route. Bon, ce n'était que ma parole, et puis ça s'est arrêté là. Et effectivement, mardi le 11 matin, ils ont attaqué.
Et vous avez appelé les autorités provinciales du Kolo.
Mais toutes les autorités provinciales du Kolo, et toutes les politiques, et militaires, et tout ce monde-là. Et donc, et le mardi, le village Kisakambulu est brûlé. Et on parle, parce que le décompte n'est pas encore bien fait, on parle de 8 personnes tuées. Et ce qui fait mal, c'est qu'on trouve une infirmière qui était dans son dans le centre de santé, un hôpital secondaire de Kisakambulu. Il faisait son boulot. Et puis, on l'a tué avec, avec la machette.
Donc, si d'après vous, honorable, il y a encore des foyers de tension sur lesquels il faut apporter, il faut chercher à sécuriser. Je me retourne, avant de voir les auditeurs, je me retourne rapidement pour avoir la réaction du ministre provincial de Kwilu qui est en ligne. Professeur Jean-Claude Bonganga, comment réagissez-vous?
Mais je commence par saluer l'honorable Mambo.
Bonjour.
Je comprends qu'il réagisse comme il réagit. Je ne crois pas que nous, au niveau de la province, nous ne prenons pas la mesure de ce qui se fait. Alors, je vais expliquer plus ou moins la situation du début jusqu'à maintenant. Lorsque le conflit démarre à Kwamutu, nous qui sommes frontaliers, nous prenons des dispositions pour essayer de sécuriser notre frontière. Je signale ici que c'était une frontière qui n'avait posé aucun problème parce qu'il s'agissait de peuples vivant ensemble. Et il lui-même l'a dit, vous partez de la Wamba pour aller dans le secteur dans le territoire de Kwamutu, vous traversez la rivière Kwango. Et là, je signale qu'il y a même de groupements. Il y a même de groupements qui, avant le démembrement, se retrouvaient et du côté de Kwamutu et du côté de la Wamba. Donc, c'est le même peuple. Au début de mon intervention, je crois vous avoir expliqué qu'il y a eu un déplacement de ce conflit. Un déplacement de ce conflit, c'est pas comme je le disais, le même foyer, mais les tensions internes qui ont été récupérées par la population. Et nous, je crois que l'honorable va le reconnaître, nous avons envoyé une équipe à Fatundu où il y a eu des interpellations et des arrestations à Fatundu. Et ces gens ont été amenés à Bandundu et envoyés à Kinshasa. Nous avons envoyé nos forces de police. Nous avons envoyé des militaires. C'est là aussi pour moi l'occasion de faire le plaidoyer. Parce que lorsque vous demandez aux services de sécurité d'intervenir, il faut se mettre en tête qu'il y a un délai d'intervention qui dépend de nos moyens, que ce soit nos moyens humains ou nos moyens matériels. Donc, lorsque je déplace une équipe de services de sécurité de Bandundu pour Fatundu, pour renforcer les équipes qui sont sur place, ça prend un certain temps. C'est comme ça que nous avons lancé cet appel à toute la population de nous donner toutes sortes d'informations nous permettant de nous déployer à temps, de déployer les forces de sécurité à temps. Nous avons effectivement décrié ce qui s'est passé à Bukusu, à Misia, à Kimpana, à Kisakambulu, etc. Mais je dois vous signaler aussi qu'il y a ce manque de collaboration avec les forces de sécurité. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un groupe de gens qui m'appelaient d'un village de notre province du Kwilu, Fasila. Et tout ce que ces gens ont réussi à me dire, c'était de déplacer les militaires qui étaient là parce que la population était traumatisée. Oui, nous sommes en situation de tension et les gens doivent s'habituer aux forces de sécurité. C'est vrai que les gens ne sont pas habitués à la présence des militaires, mais c'est une situation particulière et il faut que les gens apprennent à communiquer avec nos forces de sécurité. L'honorable va comprendre. C'est pas quelque chose que nous cautionnons, mais que nous demandons que l'on comprenne que lorsqu'il s'agit d'une situation pareille, les mesures que nous prenons ne sont pas forcément des mesures, permettez-moi de le dire, exactes. Exactes du fait que, jusque-là, il s'agit d'un ennemi qui fait partie de notre population. Donc, nos actions doivent être plus ou moins calibrés. Parce que si on ne fait pas attention, puisqu'on ne peut pas les reconnaître par l'air tenu, que la police ou les services de sécurité commencent à faire des descentes musclées au niveau des villages, ce sont les mêmes députés qui nous parleront des déviances de nos forces de sécurité.
Voilà,
la mesure et de la prévention et de la répression pour que nos actions soient bien perçues par tout le monde.
Voilà, et on va en revenir à vous, monsieur le ministre. Permettez qu'on ouvre le standard parce qu'on a déjà des auditeurs en ligne. Il y a Maître Mopila qui nous appelle de Guéménage, Charles qui est à Lubumbashi. On y va directement avec Maître Mopila qui est à Guémena. Bonjour Maître Mopila.
Aujourd'hui, je crois que ça fait longtemps. Il y a plus de 4 mois passés que la radio Capi ne mettait plus dans notre province Sidoubangi, entre autres Guémena. Je suis content que nous avons maintenant la radio Capi dans notre province qui a repris. Et nous tenons à remercier la hiérarchie de la radio Capi, Kinshasa, qui a fait cet effort que nous soyons maintenant à l'écoute de la radio Capi dans notre province. C'est très important. Si je veux parler de ce sujet-là, mais avant tout, je salue le professeur et l'excellence qui vient de parler à la radio maintenant. Le problème qui est là, mon intervention part surtout du côté éveil de la conscience de la population de Bandundu. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre que nous sommes devant un ennemi qui est le M23, soutenu par le Rwanda, que vous connaissez tous. Nous ici, à Zongo, à Guémena, province Sidoubangi, nous sommes aux aguets. Parce que par le passé, et à peine on a prétendu dire que non, ces M23-là sont à Centrafrique. Mais nous sommes prêts pour attendre tout ce qui va arriver. Mais vous, là-bas, vous êtes dans la distraction. Laquelle distraction entre vous? Nous sommes de l'ouest de la RDC. L'ouest de la RDC, c'est la paix, c'est pas la violence. S'il y a un problème entre vous, les gens du Bandundu, que nous sommes frères et sœurs, malgré que non, les provinces sont maintenant séparées, il faut régler ça dans la paix. À peine le cardinal est arrivé là chez vous. Cela ne suffit pas que vous écoutez cet homme de Dieu pour qu'il y ait la paix à Bandundu, pour attaquer l'ennemi qui est par devant nous. Je ne peux pas imaginer que non, notre maison est attaquée et les enfants commencent à se battre entre eux. C'est tout un problème. Voilà personnellement comme on pile là, votre frère. Je vous appelle à la conscience, éviter ces combats et puis regarder l'ennemi qui est devant nous, qui est le M23. Du reste, nous sommes tous Congolais. Vous ne comprenez pas votre pays. Le jour où vous serez au Rwanda, on va vous demander le passeport. On va vous demander, vous venez d'où? Vous serez mal à l'aise. Moi, je suis à l'aise à Guémena, pas je suis chez moi, même dans la pauvreté. Mais je suis Congolais, je suis chez moi. Évitons la violence, évitons tout ce qui est la guerre entre nous. Comment on peut s'entretrouver entre nous? Attaquons les M23 pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. C'est ça la levée de conscience. J'allais parler avec M. Jody.
Merci, Maître Mopila, depuis Guémena. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Charles. Vous écoutez, Charles. C'est Charles, oui, de Lubumbashi. On vous écoute, Charles.
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais un peu savoir. Pour que cette situation-là soit quasi contrôlée, il a fallu que ça soit à la fenêtre de la ville et province de Kinshasa. Parce que depuis tout ce temps ici, il y avait un silence-là de la part de nos autorités politiques à partir de Kinshasa. Mais dès lors qu'on nous a informé que la situation était maintenant tout près d'arriver à Kinshasa, c'est là où il y a eu quand même ces petits réveils-là. Alors, la deuxième question, pourquoi c'est devenu une habitude dans ces pays-ci si il y a le désordre dans les fins fonds du pays? En tout cas, la solution a toujours duré. Mais si il y a des ordres dans nos grandes villes, par exemple à Lubumbashi, vous verrez que c'est le même jour, on se met déjà debout. Si c'est à Goma, si c'est à Bukavu, toujours la même chose. Et pour terminer, vous verrez, à l'époque de Gédéon, à Mitouaba, l'endroit-là a été oublié par les dirigeants. Et on avait même baptisé cela comme triangle de la mort. Mais lorsque Gédéon s'est déplacé vers Lubumbashi, de suite la situation a été trouvée. Alors, on ne sait pas si il y a les super-congolais ainsi que les bas peuples, là où il faut prendre à la légère leur situation. Et concernant la situation socio-économique, déjà, nous vivons dans une précarité, dans une misère là, extrême. Est-ce qu'il n'y a pas eu les démarches quant à ça par rapport à la mobilisation des fonds, au lieu d'attendre toujours les personnes de bonne volonté? Et pour mieux clôturer, M. Marcel, veuillez m'excuser, comme on est en train de chercher la solution, est-ce qu'il n'a pas, ce n'est pas bien d'interdire un peu les arrivées des uns et des autres, afin de pouvoir travailler sous silence, peut-être encourager seulement la sortie de la population, interdire quand même les arrivées des uns et des autres parce que on les a toujours soupçonnés comme étant une main noire dans nos différents dossiers. Voilà un peu, monsieur Marcel, merci beaucoup.
Merci Charles de voir plus de Lubumbashi. Honorable Jean Bosco Mambo, comment réagissez-vous? Et puis, vous avez suivi, il y a Maître Mopila qui a appelé en tout cas à nos frères de Bandundu qu'il est certain éveil de la conscience, ça ne sert à rien de s'entretuer.
Merci beaucoup. Je commence par l'intervention de son Excellence Monsieur le Ministre provincial de l'Intérieur. Je l'ai suivi, je comprends tout ce qu'il dit, mais je constate qu'il y a le gouvernement, même provincial. Je commence par le gouvernement national et puis le gouvernement provincial. Ces gouvernements ont péché par un manque de prévention. Lorsque le conflit a commencé à Kouamoutou et que on avait massacré à Fadiaka, parce que là, on a tué énormément de gens. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les autorités politiques de la province, j'ai appelé les autorités militaires de la province, j'ai même appelé le chef de notre région militaire qui est à Kikwit. Je lui ai dit, mon général, je sais que vous avez vos stratégies, tout ça, mais moi, je dis ceci. Comme j'ai appris que vous venez d'envoyer des véhicules, des militaires sur la route Bandundu-Mongata. Les militaires vont d'abord opérer pour sécuriser la route. Ce qui veut dire que dans les forêts, dans les fermes, il n'y aura pas de militaires, les gens vont replier. Et si les militaires essaient d'entrer dans les forêts, il y a la rivière Kwango et tout de suite, ils vont replier vers chez nous. Donc, je propose que quand vous envoyez 10 camions de militaires sur la grande route, envoyez ne fût-ce que 2 camions de militaires sur la rivière Kwango du côté Bagata pour empêcher que ces gens-là... C'est ça la prévention. Vous ne pouvez quand même pas. Il faut être moins sage pour rigoler lorsque la case du voisin brûle. On doit prendre des dispositions pour éteindre les feux là-bas et empêcher que ça vienne chez nous. Donc chez nous, la prévention n'a pas été au rendez-vous au niveau de la gestion de ces dossiers. Lorsque le gouvernement national ou provincial, je sais pas, et lorsqu'on a envoyé des militaires, on a déployé des militaires sur la grande pour sécuriser la nationale Mongata Bandundu-Ville. Il devait, chez nous, dans les Kwilu, les gouverneurs et tout son gouvernement et tous les agents, tous les services de sécurité devaient réfléchir comme moi. C'est-à-dire que la zone de repli, c'est notre province. C'est ça la zone de repli. Alors, qu'aujourd'hui, bon, je ne pense pas que le ministre Jean-Claude me dira qu'il n'a pas... C'est un garçon très... C'est un monsieur très intelligent. Je veux dire un garçon parce que c'est un ami. Très intelligent. Il est très brillant. C'est un monsieur très brillant. Je ne crois pas qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Non, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Quand ils avaient envoyé des militaires sur leur... Il fallait directement prévenir en mettant de militaires chez nous pour empêcher... En fait, c'est pour cueillir facilement ceux qui viendront. Alors, quand vous laissez, ça devient poreux. La zone est poreuse. C'est clair, donc ils traversent, ils entrent facilement. C'est ici, c'est leur zone de repli. Donc ça, ils ont manqué la prévention et ce n'est pas intéressant. Je vais continuer par la suite. Pour l'intervention de notre frère Mopila, il a raison. Il a raison que nous devons faire la paix parce que une maison divisée, c'est une maison qui est détruite. Il suffit seulement qu'un étranger vienne, qui ne vous aime pas. Bon, il trouve déjà la division. C'est plus facile pour lui. C'est pour ça que chez nous, maintenant, quand on parle de Mbororo, de M23, tout ça, on ne peut pas croire. Parce qu'en fait, en réalité, les gens se règlent des comptes. Et eux, ils se servent de ça, s'ils sont derrière, bien sûr. Parce que pour l'instant, quand tu vois, moi je viens de chez moi, du village, de Fatounou. Je suis passé par qui c'est là qu'on a brûlé maintenant, là. J'étais parti dimanche, aujourd'hui on est le 13. J'étais parti dimanche les deux. Dimanche les deux, j'étais là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je suis rentré jeudi les 6 ou les 7. Donc, je n'ai pas vu tout ce qu'on arrête là-bas. Ce sont nos jeunes frères. Ce sont nos frères que eux-mêmes connaissent, qu'ils identifient. Mais c'est eux qui tuent. Et maintenant, c'est un règlement de compte qui s'installe. Et je veux relever une chose. C'est si les ministres ne le savent pas. Les villages qu'on brûle dans les secteurs de Wamba, tous ces villages-là sont des villages tékés. Mais on saute des villages bala. Et donc les tékés des chemois disent, quand les autres là, qui venus d'en face sont arrivés, ils étaient en petit nombre, ils ont recruté dans les villages Mbala pour tuer les Teke, parce qu'il y a des chefs Mbala qui veulent prendre en terre. Tout. Le conflit, il est là. Si eux, ils pensent que c'est pas superficiel.
Mais heureusement que le ministre a dit qu'il y a différentes commissions qui ont été constituées pour faire face à tout cela. Et, mais alors, il y a aussi cet aspect des choses qui est très regrettable, c'est la situation humanitaire. Parce que chaque fois qu'on a des conflits, il y a des déplacés. Et là, maintenant, on parle de plus de 80 000 qui vivent dans des conditions précaires. Et comment faire face à cette situation honorable?
Voilà. Donc, je vous remercie pour la question. Je remercie notre frère Moupila qui nous a donné juste le conseil. Nous devons vivre ensemble. Je remercie aussi notre frère du Katanga qui, effectivement, il a raison.
Qui a dénoncé le fait qu'on ait réagi.
Mais c'est comme ici à Kinshasa et les opposants disent, nous allons faire une marche pour contre la présence du M23. On voit toute la police, tous les généraux Kasongé, tout le monde, ils vous traquent, ils vous fouettent et tout ça. Mais lorsqu'on leur dit que à l'intérieur, dans un village, il y a ceci, ils répondent comme l'inspecteur général des finances avait expliqué aux États-Unis que la guerre là, c'est très loin, c'est loin. En fait, c'est l'irresponsabilité des hommes politiques chez nous. C'est très loin, c'est loin. Donc il y a des citoyens de ville, de première zone, il y a des citoyens de deuxième zone qui sont nos citoyens, qui nous ont élus. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ces genres d'irresponsabilité et cette façon simpliste de prendre les choses. Alors, il y a effectivement une situation humanitaire très, 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 très précaire. Je voudrais d'abord parler des élèves, des enfants. À l'âge de scolarité, il faut 222 jours de scolarité, activités scolaires et cours. Et leçons, enseignement compris. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Je crois qu'on est en train d'entamer 30 jours déjà. Et les enfants, là, n'étudient pas. Il faut absolument qu'on voie là où ils sont, comment les enregistrer, et surtout ceux qui doivent fréquenter l'école primaire, étant donné le principe de gratuité, il serait de les intégrer là où ils se trouvent, dans les villages où ils se trouvent, il y a des écoles, pour que ces enfants-là puissent quand même étudier. Maintenant, il reste le problème de ceux du secondaire. Parce qu'au secondaire, il y a des frais à payer. Et les parents sont dessouchés. Ils n'ont pas de ressources là où ils sont. Ils n'ont pas de champs, ils n'ont rien. C'est ici où nous en appelons donc à la responsabilité, si elle existe, ne fût-ce qu'un peu, du gouvernement central, du gouvernement provincial, mais aussi, n'est-ce pas, à la compassion des hommes de bonne foi, des organisations de bonne foi, pour, n'est-ce pas, aider et ces enfants-là à étudier.
Et en aussi tout cas, les déplacer aussi.
Oui, oui, à étudier. Alors, lorsqu'on pense à ces enfants-là, on doit penser à l'endroit où ils logent. Si les enfants, lorsque les enfants dorment à même le sol, je parle d'abord des enfants, ce n'est pas que je mets les parents de côté, mais les plus vulnérables, ce sont les enfants. Et quand on pense aux enfants, les parents sont soulagés. Parce que les parents qui sont là, ils veulent faire scolariser leurs enfants, ils veulent donner un habitat à leurs enfants. Si on peut trouver de matelas, des mousses, et construire amener des tentes dans un premier temps. Mais dans nos villages, on peut facilement construire des maisons en paille, très rapidement. Donc s'il y a une assistance dans ce sens-là, ça peut quand même soulager, mais aussi travailler au retour de certains villageois dans les villages pacifiés, et dans la mesure où ils peuvent rentrer. Donc il faut que le gouvernement prenne les choses en main, gère. Donc j'ai plaint d'abord le manque de prévention. Maintenant je suis en train de plaindre la mauvaise gestion. Il faut que le gouvernement apprenne à prendre le taureau par les cornes, à bien gérer cette crise humanitaire. Déjà il y a 3 jours, une maman de troisième âge qui est partie du village Falo, qui est venue, qui s'est réfugiée à Fatundu et est morte. Donc on l'a enterré, c'est une grand-mère de troisième âge, on l'a enterré. Et il faut craindre que dans la promiscuité dans laquelle les gens vivent, comme à Fatundu, au centre des Béaté, tout ça, puisse amener de maladies.
Des épidémies.
Donc tout ça, il faut pas que demain, le ministre Bouanganga vienne dire qu'il savait pas ça, qu'eux savaient pas ça.
Voilà, on va donner l'occasion au ministre Bouanganga d'y réagir. Professeur Jean-Claude Bouanganga.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par répondre à l'honorable Mambo. Oui. Je sais, on peut nous c'est normal. D'abord, je signale, vous ne l'avez pas dit, que c'est un député de l'opposition. C'est normal qu'il puisse décrire les choses comme il décrit. Mais c'est tout à fait normal. C'est ça qui fait la beauté de notre démocratie. Nous sommes d'accord qu'il y a eu quelques petits soucis, mais je vais quand même dire une chose. La responsabilité, c'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, parce qu'à la base de tout ça, nos députés, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, le problème à la base, c'est que parfois les législateurs étaient mal compris. Au fait, les législateurs pensent qu'il est compris par tout le monde, alors que tout le monde sait qu'il n'est pas compris. Donc, le législateur ne fait pas d'effort pour aller vers la population pour expliquer les lois. À la base du conflit, vous avez un problème de terre. Qu'est-ce que le législateur fait pour mettre suffisamment de lumière sur la gestion de nos terres? Mais vous allez voir les députés, quand il va s'agir de la loi électorale, tout le monde sera là pour dire oui, on fait ceci, on fait cela. Mais pour tout ce qui concerne le bien-être de la population, ça ne se fait pas. Donc, maintenant, nous qui gérons, nous sommes dans l'exécutif. Nous devons faire face à tout ça. Et comme je disais, à tout celui qui est préparé au conflit, aux guerres, à l'inconscience, etc., par manque de textes corrects. Donc, je crois que nous, en tant que gouvernement, nous faisons des efforts. Et là, je viens dans ce que l'honorable député vient de dire. Nous sommes à Bandundu-Ville, nous avons en face de nous le territoire de Kouamouth. Et je signale que ce n'est pas la province de Kwilu, c'est la province du Maïndombe. Nous reconnaissons que nous avons une frontière que nous devons sécuriser. Mais nous avons en tête qu'en face de nous, donc dans le territoire qui est en face, nous avons nos militaires qui sont en opération. Donc nous ne pouvons pas, à notre niveau, faire des déploiements de n'importe quelle manière. Parce que moi, je suis ministre de l'Intérieur, je ne vais pas aller coordonner les opérations de l'armée. Mais j'essaye de faire en sorte que, au niveau de ma frontière, je minimise les effets de ces déplacements massifs de la population. Parce que, qu'est-ce que le territoire de Kouamouth a hérité? A hérité d'un grand territoire qui n'est pas connecté à l'information. Au fait, le monsieur qui est dans un village qui apprend qu'il y a des coups de feu là-bas, et il passe avec l'information, il dit les rebelles sont déjà à quelques kilomètres. Vous voyez ce que ça fait, la panique que ça crée, etc. Tout ça, ce n'est pas le pouvoir actuel. C'est ce que nous avons hérité du pouvoir passé. Donc, c'est une situation qui nous demande beaucoup de tact. Et c'est comme ça que nous, dans notre façon de voir les choses, nous réagissons en fonction des situations que nous avons. J'explique. Nous envoyons des militaires à Fatundu, et là, nous sommes dans le secteur de la Wamba. En face, nous avons le Kouamouth. Et donc, vous avez dans la Wamba des Tékés, ici, et dans le Kouamouth, vous avez aussi des Tékés. Je rencontre un chef Téké qui vous dit qu'il a vu ça, et il a vu des gens qui sont venus pour faire ceci, pour faire cela. Je lui pose la question, vous m'avez dit que vous aviez fui, d'où tirez-vous l'information que vous me donnez? Donc, même le chef lui-même, quand il vient vous voir, il vient de ce côté-là, il ne vient pas avec la bonne information. Il ne vient pas avec la bonne information. Et je vous dis que la perception des problèmes, maintenant que nous en parlons, la perception des problèmes est la même. L'honorable Mambo, c'est un député, il perçoit les choses autrement. Donc, pour l'honorable Mambo, lorsqu'il s'expose au gouverneur, le jour suivant, enfin à la seconde, le gouverneur et les équipes dans son fief pour protéger son électorat. Mais nous, pour le faire, nous avons des services. Donc les informations que nous considérons comme informations saines, ce sont les informations des services. Voilà, et lorsque les services sont en difficulté, les décideurs sont en difficulté. C'est une situation de crise qu'il faut juger à la mesure de la situation. Voilà, Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il y a des gros efforts, en tout cas des très gros efforts, qui sont faits par le gouvernement provincial, qui est dirigé par l'honorable Willy Sundala. Et nous avons vu le déploiement le long de la rivière Kwilu, il doit le savoir, nous avons envoyé nos marins jusque Fatundu, avec les moyens des bords. Avec les moyens des bords, nous l'avons fait. Mais le plaidoyer est fait au niveau de la région militaire, au niveau de la première zone de défense, pour que nous puissions avoir des équipements qu'il faut pour mieux sécuriser la population. Et nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons fait la demande pour qu'on ait une compagnie qui vienne en renfort dans le territoire de Barata.
Ben, voilà.
Nous avions des mesures de notre tutelle. Nous avions levé des barrières. Et il faut le savoir.
Alors,
des barrières en temps de paix. Il faut le remettre, etc.
On revient à vous pour conclure, monsieur le ministre, également à l'honorable, pour conclure. Mais il est temps pour nous d'accorder rapidement la parole aux deux auditeurs. Il y a Thomas qui nous appelle de Chicapa. Et bienvenue qui est à Kinshasa. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors,
bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, en une minute, Thomas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces sujets? En une minute.
À ce sujet, premièrement, je ne sais pas si le ministre provincial connaît que gérer ses provenirs. Et s'il peut avoir le courage de rendre le tablier, les autorités soignées de la République ont dit qu'il y a une main noire derrière tout ce qui se passe à Kwamutu et dans les grands Bandundu. La question de savoir, jusqu'à la preuve du compte, la situation n'est pas maîtrisée. Cette main noire-là, pourquoi n'est-elle pas encore dénichée et au besoin démantelée?
Merci. Merci Thomas, on n'a plus assez de temps, mais on a suivi votre question-là. Merci Thomas d'avoir appelé de Chicapa. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa. En une minute également, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour aux deux invités.
Bonjour, bienvenue.
Oui, au début, j'allais dire au ministre, l'ingénieur, quand vous dirigez, vous devez savoir comment prendre les précautions. Avant, on dit, devant les évidences, les arguments ne servent à rien. Quand vous dites, vous travaillez avec les populations qui vous donnent l'information, quand un député vous appelle, je crois que vous devez prendre ces informations en considération. C'est pas pour autant dire que il est député, il est opposant, il est... Ici, vous ne vous battez pas pour... Je connais, vous êtes du même territoire, Bagata, mais ici, on n'a pas l'opposant, on n'a pas de majorité. Parce qu'il y a la vie des hommes que vous dirigez, que vous devez protéger. Dans ce cas-là, vous devriez prendre toutes ces précautions à temps. Et au gouvernement central, j'allais dire, j'ai comme l'impression que ce conflit du Gabandoulou est vraiment négligé. Tout au départ, pour amener la sécurité, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on parle des aspects humanitaires. J'ai comme l'impression que le gouvernement national ne s'engage presque à rien. On laisse la charge à notre province du Kwilu qui, en réalité, n'a presque pas assez de ressources pour prendre toutes ces personnes-là en charge.
Merci. Merci, bienvenue d'avoir appelé de Kinshasa. On va conclure avec nos deux invités. On commence avec l'honorable Jean Bosco Mambo Katunda, député national de Bagata, dans la province du Kwilu, qui est avec moi dans ce studio.
Merci beaucoup. Je voudrais dire au gouvernement provincial que les assaillants maintenant s'organisent après les incendies des villages. Ils s'organisent pour voler le maïs, pour voler le manioc. Pour Kimpana, comme c'est sur la rivière Kwango, et ils utilisent de baleinières, des pirogues motorisées pour évacuer ces productions-là. Et vous imaginez que lorsqu'ils ont déjà fait une ou deux opérations comme ça, et qu'ils se sont tapés un peu d'argent, l'organisation devient forte. Donc, le temps qu'ils sont en train de prendre, bon, ils disent qu'ils sont en train de gérer, bien sûr, mais pendant ce temps-là, nous constatons qu'il y a des villages qui sont brûlés. Et dans ces villages-là, il n'y a pas d'agents de sécurité, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires. Nous concédons qu'ils gèrent. Mais les évidences sont que les villages sont brûlés et que ces gens-là sont en train de s'organiser, de vendre leur maïs et de gagner l'argent. Ça, c'est un des deux.
Pour que
demain, le gouvernement provincial ne dise plus et ne soit plus surpris, je le préviens qu'il faut absolument vite faire pour, n'est-ce pas, mettre fin à ces conflits tribal qui naît. Parce que moi, je suis Mbala. Mais nos frères Teke estiment que les Mbala sont en train de les tuer. Et ça, c'est très mauvais. Quand ça se véhicule, demain, ça va brûler tous les secteurs, tous les territoires. Je verrai peut-être que le gouvernement viendra dire encore que je ne le savais pas. Au moins, je le préviens.
Vous avez déjà prévenu. Voilà. On va s'arrêter par là avec vous, honorable Jean Bosco Mambo Katunda. Nous rappelons que vous êtes député national élu de Bagata dans la province du Kulo. Merci d'avoir été de notre. On va également nous tourner vers le ministre provincial de l'Intérieur, province du Kulo, professeur Jean-Claude Banganga, pour conclure. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure, en tout cas, pour ce qui a été dit par rapport à cette crise et ces conflits entre Tékéak et également cette crise humanitaire?
Oui, merci. Merci encore une fois de cette invitation. Ce que je veux dire, c'est que je répondrai à nos auditeurs qui venaient de réagir tantôt, qui parlaient de la prévention, etc. Les dispositions ont été prises par la province du Kwilu pour atténuer les effets, je dis bien atténuer, à défaut d'éliminer les effets de cette crise. Et je vous signale que c'est une crise qui est partie de la province du Maïndombe, que nous avons et continuons à essayer d'amortir. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit garder en tête. La province du Kwilu amortit et subit les chocs d'une crise qui a commencé dans le territoire de Kwamout, dans la province du Maïndombe. Donc, nous prenons la mesure de ce que nous faisons.
Oui.
C'est vrai que nous y laissons un peu notre peau, mais nous travaillons pour que la situation soit maîtrisée. Donc, au niveau du gouvernement provincial, c'est fait, et je vous ai dit qu'au niveau du gouvernement central, ce sera aussi fait dans les jours à venir.
Voilà. Merci, professeur Jean-Claude Banganga. Nous rappelons que vous êtes ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Justice, Droits humains et Affaires coutumières de la province du Kulu. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.